France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Comme chaque premier lundi du mois, c'est notre rendez-vous Club Actu. Aujourd'hui, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, quelles sont les dernières nouvelles du VIH ? Contre le virus, notre arsenal thérapeutique s'est considérablement renforcé avec une palette d'outils de prévention. Cela fait plus de 10 ans que l'on sait qu'une personne séropositive, sous traitement, n'a plus aucun risque de transmettre le VIH. En absence de vaccin, du moins pour l'instant, la PrEP fournit une protection efficace. Côté recherche fondamentale, on comprend de mieux en mieux les étapes précoces de l'infection. Au cœur de cette bataille scientifique où la victoire semble proche, l'inquiétude des spécialistes plane. La suspension brutale de l'aide américaine par Trump pourrait, selon l'ONU, sida anéantir 2 décennies d'avancée. Lutte contre le sida, au clair de la une. Mathilde Fontes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef d'Epsilon, notre magazine partenaire. Bonjour Anna Salvetti.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de la revue Médecine Science, la revue gratuite et en ligne de l'INSERM. Fred Le Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le magazine Remède, magazine gratuit publié par Aide depuis 35 ans.
Tout à fait. Je suis aussi patient expert puisque je suis moi-même concerné par le VIH. Je vis avec le VIH depuis 16 ans.
Très bien. Et nous sommes également en ligne avec Jean-Daniel Lelièvre.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier au CHU Henri Mondor à Créteil, directeur du département clinique du VRI, et spécialiste de la vaccination et expert à la Haute Autorité de Santé. Merci, grand merci à vous quatre d'être là avec nous en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast. Vous pouvez également suivre cette émission en nous rejoignant sur Blue Sky, sur notre compte de science CQFD. Alors pour commencer, avant toute chose, Fred Le Breton, il faut tout de suite faire un distinguo entre VIH et sida.
Effectivement, parce que beaucoup de personnes ne font pas ce distinguo et les mots comptent, surtout pour les personnes concernées. Le VIH, c'est quoi ? C'est le virus donc qu'une personne peut contracter. Moi, je suis porteur du VIH, par exemple. Le sida, c'est le stade avancé de l'infection à VIH pour les personnes qui n'ont pas accès à un traitement et qui, au bout de quelques années, développent des maladies opportunistes. Et donc, ce stade avancé peut mener jusqu'à la mort. Aujourd'hui, en France, heureusement, il n'y a pratiquement plus de personnes en stade sida. Il y en a eu 700 en 2024, par exemple, parce qu'on a des traitements hyper efficaces qui permettent de ne pas être en stade sida, justement.
Et on verra qu'il existe en effet toujours des disparités géographiques. On a aussi ce slogan qui est assez connu, hein, le I égale I, indétectable égale intransmissible. Alors, c'est une réalité scientifique depuis 15 ans, mais ça reste quand même assez ignoré par le grand public. Alors déjà, peut-être qu'on peut dire ce que ça signifie, ce I égale I.
Effectivement. Alors, I égale I, que veut dire cet étrange slogan ? Ça veut dire indétectable égale intransmissible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, une personne séropositive sous traitement, qui prend son traitement correctement tous les jours, au bout de quelques semaines, donc très rapidement, sa charge virale devient indétectable. C'est-à-dire qu'elle est si faible dans le sang que le virus ne se reproduit pas et la personne ne peut pas transmettre le VIH à ses partenaires, y compris lors d'un rapport sexuel non protégé par un préservatif. C'est une information cruciale pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on est une personne qui vit avec le VIH et qu'on a cette information, on a envie de rester en charge virale indétectable. Donc du coup, on va faire en sorte de bien prendre son traitement pour ne pas le transmettre à ses partenaires. Je dis souvent d'ailleurs que les personnes séropositives sous traitement protègent leurs partenaires. Ensuite, c'est important aussi en termes de santé publique, puisqu'en fait, le fait d'avoir une charge virale indétectable brise la chaîne des transmissions. C'est une information qui est très méconnue aujourd'hui par la population générale. 8 Français sur 10 ignorent, en fait, I égale I. C'est une information qu'il faut rabâcher, parce que ça contribue aussi à lutter contre les représentations, les idées reçues, ce qu'on appelle la sérophobie, donc la peur, parfois irrationnelle, des personnes vivant avec le VIH, qui fait que beaucoup de personnes vivant avec le VIH sont encore isolées aujourd'hui dans leur vie affective, sexuelle, parfois qui subissent des propos discriminants par des soignants, par des dentistes, par des collègues de travail. Tout ça, c'est documenté. Hein. Il y a eu de nombreuses enquêtes. Donc en fait, I égale I, c'est à la fois une réalité scientifique qui remonte quand même à plus de 15 ans aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que la première fois qu'on a entendu parler, c'était en 2008, c'était le fameux rapport suisse, ce qu'on appelle le rapport Hirschel. Quand c'est sorti à l'époque, ça a fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels du VIH, y compris des soignants, étaient très réticents à communiquer cette information, parce qu'ils se disaient, en fait, si on dit à nos patients que leur charge virale est indétectable et qu'ils peuvent pas transmettre le VIH, ils vont arrêter de se protéger. En fait, pour moi, c'était une erreur, je suis pas le seul à le penser, parce qu'en fait, du coup, encore une fois, quand on sait qu'on a le pouvoir sur le virus, on a envie de bien prendre son traitement. Donc, en termes d'observance, c'est hyper important. Donc, les premières années, en fait, I=I, c'était pas trop communiqué. Moi, par exemple, j'ai été dépisté en 2009, j'ai découvert I=I en 2012 en allant dans une asso, en allant chez Aide. Mon médecin ne m'en a jamais parlé. Donc, c'est assez commun, en fait. Ensuite arrive l'étude partenaire en 2014. Donc, ça, c'est une étude qui va vraiment entériner I=I. Je vais vous donner quelques chiffres quand même. C'était une étude sur des couples séro-différents, c'est-à-dire un partenaire séro-négatif, un partenaire séro-positif. Il y avait des couples hétérosexuels, des couples gays. 586 couples hétérosexuels, 308 couples gays. Au total, tenez-vous bien, 44 500 relations sexuelles sans préservatif, dont 21 000 rapports anaux. Aucune transmission. Aucune. Voilà. Cette étude a été prolongée par une autre étude partenaire, une sous-étude qui s'appelle Partenaire 2 en 2018, uniquement sur des couples gays. Là, on est sur 783 couples gays, 75 000 rapports sexuels sans préservatif, avec un partenaire donc séropositif, aucune transmission. Zéro. Donc en fait, le risque zéro existe avec I=I. Et ça, c'est important de le répéter, de le marteler. Aujourd'hui, c'est un message de santé publique qui n'est porté que par les associations de lutte contre le VIH. Il n'y a pas de campagne nationale. Je ne sais pas si vous en avez vu. Moi, je n'ai jamais vu d'abri de bus avec I=I. Hein. Aujourd'hui, c'est porté par qui ? C'est porté par les personnes concernées. C'est porté par les assos. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Il y a deux grosses campagnes qui sont lancées par Aide et par Action Traitement sur I=I. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site et sur leurs réseaux sociaux et à les partager. Parce qu'en fait, on est tous séro-négatif, séro-positif, on a tous un devoir de partager ce message de santé publique qui contribue à lutter contre la stigmatisation.
Et en effet, ce slogan qui est un vecteur de changement en profondeur de l'image d'une personne qui vit avec le VIH, on le doit à ce rapport Hirschel, du nom de Bernard Hirschel, on l'écoute en 2008.
Est-ce que vos affirmations que vous avez lancées l'année dernière en disant que la maladie était moins contagieuse, voire plus contagieuse si le malade était traité depuis au moins 6 mois, est-ce que ces déclarations-là n'ont pas justement fait en sorte que les gens se sont peut-être moins protégés, que les campagnes ont moins touché les gens? Est-ce que vous pensez là que vos déclarations n'ont pas un peu brouillé le message?
Alors, je ne pense pas. D'abord, il ne faut pas exagérer la portée de ces déclarations.
Pour les 98,8%
de la population qui ne sont pas infectés à Genève, par exemple, pour toutes ces personnes-là, il n'y a rien qui change. Si vous voulez vous protéger, il faut utiliser les préservatifs ou alors vous abstenir. Pour les autres, ces déclarations ont eu une certaine importance. Mais il faut dire que...
Par exemple,
il y a des couples où un partenaire est positif et l'autre est négatif. Ils veulent avoir des enfants. Comment faire ? Préservatif, c'est difficile. Il y a des gens en Suisse qui ont été condamnés pour mise en danger d'autrui parce qu'ils ont eu des relations sexuelles. Or, ils étaient sous traitement, il n'y a pas eu de transmission... Il n'y a probablement eu pas de risque de transmission dans ces circonstances. C'est quand même gênant de condamner quelqu'un pour mise en danger quand il n'y a pas de danger. Et puis ensuite, c'est très difficile de se savoir potentiellement contaminant. Dire aux personnes traitées qu'ils sont moins ou pas du tout contaminants, c'est vraiment une charge de moins pour eux à porter. Ça diminue le stigma, la discrimination. Et pour cette raison-là, je ne trouve pas qu'on doive cacher cette vérité sous prétexte que peut-être ça brouille les messages de prévention.
Voilà, la voix de Bernard Hirschel en 2008 lors de la 20e journée mondiale contre le sida au micro de la RTF. Fred Le Breton, cette archive, vous faisait réagir.
Tout à fait, ça me parle déjà en tant que personne concernée, mais aussi en tant que journaliste. Parce que moi, mon travail pour Remède, c'est de recueillir la parole des personnes séropositives. Donc j'ai interviewé plus de 150 personnes et il y a quelque chose qui revient dans pratiquement chaque interview, c'est le moment où la personne découvre I=I. Et là, souvent, le mot que j'entends, moi, c'est libération. Mmh. Effectivement. Libération parce que cette peur de transmettre le VIH, elle est chez toutes les personnes vivant avec le VIH. Et quand on sait effectivement qu'on ne peut pas transmettre, ça libère. C'est une vraie libération.
Néanmoins, il reste cette difficulté à communiquer sur la non-transmissibilité du VIH. C'est quelque chose de pas simple.
Pourtant, moi, ça me semble très simple, I=I. Alors après, oui, c'est des slogans. On peut dire aussi VIH indétectable égale zéro transmission. Là, il y a une campagne aujourd'hui qui sort chez Action Traitement qui s'appelle zéro risque de transmission égale zéro raison de discriminer. Voilà, il y a plein de façons de l'expliquer. En fait, c'est très simple, mais il faut juste que les gens prennent le temps de s'intéresser au sujet. Or, le VIH, aujourd'hui, on le sait, n'est pas un sujet très funky. Donc, merci de faire cette émission.
Merci à vous d'être là avec nous pour parler, en effet, de
de ce sujet, évidemment, de santé publique, un sujet aux enjeux majeurs. Alors là, on voit bien quand même que ce slogan I égale I, c'est la preuve du fonctionnement du ce qu'on appelle le TASP, en français, le traitement comme prévention. Alors justement, comment ça fonctionne, ce traitement antirétroviral? En quoi ça consiste? Comment agit-il?
Le traitement antirétroviral, en fait, permet de bloquer la réplication du virus. Donc c'est un traitement, aujourd'hui, par exemple, je prends un cachet par jour, 4 jours par semaine. C'est ce qu'on appelle l'allègement thérapeutique. Il y a aussi des traitements injectables aujourd'hui, une injection tous les 2 ans. Il y a des nouveaux traitements qui vont arriver, je pense qu'on va en parler après. Aujourd'hui, on a des traitements tellement efficaces qu'une personne, en fait, dépistée séropositive, qui commence son traitement, c'est ce qu'on appelle le test and treat. On dépiste, on traite. C'est-à-dire le lendemain du diagnostic, la personne prend son premier cachet. Un mois après, sa charge virale est indétectable. Mmh. Ça va aussi vite que ça, en fait. Donc, c'est révolutionnaire. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il faut insister sur le dépistage, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore 10 000 personnes en France qui sont séropositives et qui l'ignorent. Et en fait, l'épidémie de VIH, elle continue de par ces personnes qui ignorent leur séropositivité. Pas par les séropositifs qui sont dépistés et traités, puisque la chaîne des transmissions est brisée par le traitement. D'où l'importance de test and treat, dépister, traiter.
Voilà, c'est cette incitation à aller se faire dépister. Mais à quel moment on parle de charge virale indétectable?
Alors, quand on est en dessous de 50 copies, en fait. C'est des tests en laboratoire. Hein. Voilà, vous faites une prise de sang et encore une fois, la charge virale, elle a aucune raison de remonter, sauf si la personne prend mal son traitement, évidemment, si elle la prend un jour sur deux. Après, ça crée des résistances, etc. Mais avec l'arrivée prochaine des traitements, ce qu'on appelle long acting, à longue durée d'action, là on est sur 2 mois, mais il y a des essais cliniques en cours sur des essais à 6 mois. Il y aura de moins en moins de problèmes d'observance, en fait.
Vous souhaitiez réagir, Anna Salvetti?
Oui, juste pour préciser, les traitements, en fait, c'est souvent des combinaisons de molécules qu'on appelle antivirales, qui agissent à plusieurs étapes du cycle du virus et qui vont le bloquer. Donc, ce qui se passe chez les personnes qui sont infectées par ce virus, c'est que quand ils prennent ces médicaments de façon régulière, le virus ne peut plus se répliquer, ne peut plus produire de nouvelles particules. C'est pour ça que I égale I. Il garde le virus, c'est bien ça le problème du VIH, malheureusement, mais il ne peut pas le transmettre. Et on verra probablement après, avec l'intervenant suivant, qu'il y a aussi des traitements qu'on peut prendre quand on est séronégatif, en préventif maintenant.
Ah, j'entends Jean-Daniel Lelièvre qui souhaite également réagir.
Oui, pour bien comprendre la puissance de I égale I, il faut savoir que historiquement, ça vient d'études qui avaient été faites dans les couples qu'on appelle sérodiscordants en Afrique du Sud, et qu'on voyait qu'il n'y avait pas de transmission du virus quand la personne séropositive avait moins de 1000 copies de virus par ml de sang. Et comme l'a bien précisé Fred Le Breton, avec les traitements actuels, on est à des charges virales complètement contrôlées qui sont inférieures à 50 copies, voire inférieures à 20 copies. Donc le risque est absolument nul.
Alors comment maintenant le VIH échappe-t-il aux défenses antivirales? Comment ce virus entre-t-il dans le noyau cellulaire? Restez avec nous, on y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Nous sommes en direct sur France Culture et pour ce Club Actu, nous prenons les dernières nouvelles du VIH à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida. On vient de voir qu'aujourd'hui, une personne infectée par le VIH et qui est prise en charge ne peut jamais développer le sida. Et on sait également que le traitement est un outil maintenant de prévention de la transmission du VIH, quelque chose de prouvé. Aujourd'hui, Anna Salvetti, vous vous êtes intéressée, vous souhaitiez nous parler de travaux récents qui ont été réalisés, entre autres par le groupe de Francesca Di Nunzio, qui est responsable de l'unité virologie moléculaire avancée à l'Institut Pasteur. Et c'est une équipe qui travaille justement sur l'entrée du VIH dans le noyau cellulaire. C'est un domaine de recherche qui est quand même assez actif.
Oui, c'est un domaine de recherche très actif. Pourquoi? Parce que le virus, le VIH, son objectif, en fait, quand il infecte une cellule, c'est de rentrer dans le noyau de la cellule où se trouve l'ADN cellulaire pour intégrer son génome dans les chromosomes cellulaires. S'il n'arrive pas à faire ça, il est mort. L'infection est abortive et ça va rien donner. Donc, bien sûr, étudier les premières étapes qui vont du moment où le virus infecte une cellule jusqu'au moment où il rentre dans le noyau, c'est crucial. Et je voulais vous parler de ça parce que ces dernières années, il y a eu quand même des découvertes importantes, à mon sens, qui ont été faites et qui sont importantes non seulement pour la compréhension du cycle de vie de ces virus, mais aussi parce qu'elles elles fournissent un éclairage particulier sur le fonctionnement de certaines molécules antivirales et en particulier d'une molécule qui s'appelle le lenacapavir. Donc je pense qu'on va en parler par la suite, on a beaucoup parlé de cette molécule. Elle a été nommée par le magazine Science la découverte de l'année, le breakthrough of the year, la découverte de l'année, parce qu'elle a produit des résultats spectaculaires en prévention. Et c'est quoi le lenacapavir? Alors le lenacapavir, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que prend Fred, c'est un mélange de traitements qui vont cibler les activités du virus. Le lenacapavir, c'est un antiviral nouveau qui ne cible pas une activité enzymatique, mais qui cible une protéine qu'on appelle la capside. Alors,
la capside,
je suis obligée de...
On peut dire que voilà, la capside, c'est une coquille, comme un ballon de foot qui contient le matériel génétique du virus, si on doit se
représenter. C'est une coque,
voilà, une coque
semi-rigide, qui a dans le VIH à peu près la forme d'un cône, et qui contient le génome du virus dans la particule. Donc cette capside, on savait depuis très longtemps, bien avant le VIH, parce que les rétrovirus sont étudiés depuis les années 60 quand même, qu'elle avait un rôle de structure, de protéger le génome contre l'environnement. Mais on savait aussi qu'elle était importante dans les étapes précoces, c'est-à-dire les premières étapes de la vie de ce virus dans une cellule, puisque c'est la capside qui se retrouve à l'intérieur de la cellule dès que le virus a franchi la première barrière externe, qui est la barrière de la membrane plasmique. Et sa fonction est justement celle de transporter, comme un véhicule, de transporter le génome viral vers le noyau. Or, l'idée qu'on en avait, très sommairement, issue de plusieurs années de recherche sur plein d'autres rétrovirus et aussi sur le VIH, c'était que la capside transitait donc à l'intérieur de la cellule jusqu'au noyau, mais qu'elle n'était pas capable de rentrer dans le noyau, parce que le noyau, c'est une entité vraiment physiquement différente que le reste de la cellule. Elle est délimitée par une membrane nucléaire. Donc, on pensait que la capside ne pouvait pas rentrer dans le noyau, mais qu'en arrivant à la périphérie du noyau, elle s'ouvrait, on dit qu'elle se désassemble dans le jargon des virologistes, pour libérer le génome qui, à ce moment-là, était devenu un génome ADN. Parce que vous savez que la marque de fabrique des rétrovirus, c'est qu'ils ont un génome ARN et il faut qu'il se transforme en ADN pour pouvoir s'intégrer. C'est la fameuse reverse transcription. Cette reverse transcription, on pensait qu'elle se déroulait pendant ce passage de la capside vers le noyau. Donc elle arrivait à la périphérie du noyau, elle s'ouvrait, elle laissait sortir l'ADN qui rentrait dans le noyau et s'intégrait. Voilà l'image qu'on en avait. Alors, il y a des découvertes, au moins trois, qui ont vraiment bouleversé cette image. Et alors, réalisées par plusieurs équipes, dont en particulier celle de Francesca Di Nunzio à Pasteur, qui ont montré d'abord que non, c'était pas vrai. Cette capside, elle rentrait dans le noyau. Et ça, c'était surprenant, parce qu'on pensait pas qu'elle pourrait franchir cette barrière physique. Et ça, ça a été possible parce que Francesca a développé des techniques d'imagerie très sophistiquées, couplées à de la microscopie de haute résolution. Et c'est vraiment stupéfiant ce qu'on voit. Moi, je suis allée la voir dans son laboratoire. Elle m'a montré des images de capsides en 3D visualisées dans le noyau des cellules infectées. On les voit très, très bien.
Et justement, ces images par microscopie à fluorescence, que voit-on plus précisément?
Eh bien, on voit que la capside est rentrée et qu'elle a encore sa forme conique. On peut vraiment voir qu'elle est presque entière. Alors, on ne peut pas affirmer qu'elle est exactement la même qu'au début. Elle a probablement été remodelée, mais en tous les cas, elle est loin d'être désassemblée. Et la deuxième chose qu'elle a montrée, c'est que dans ces capsides, dans le noyau, on pensait qu'il y aurait de l'ADN, puisque comme je l'ai dit, on pensait que la reverse transcription se faisait avant. Or, non. Elle a trouvé des génomes ARN et a montré que, en fait, la reverse transcription, étape fondamentale dans la vie des rétrovirus, pouvait se faire dans le noyau. Alors, ça peut paraître anecdotique pour ceux qui connaissent pas bien les détails de ce virus, mais ce ne l'est pas, parce que c'est très important. C'est une information cruciale pour développer des nouveaux inhibiteurs aussi. Et la troisième information qui est découlée de ces découvertes, c'est qu'en arrivant dans le noyau, la capside, elle agrégeait plein de facteurs cellulaires pour former des, ce qu'on appelle des condensats. Alors, il faut voir ça comme des gouttes d'huile dans de l'eau. Quand vous mettez de l'huile dans l'eau, ça fait des gouttelettes. C'est exactement ça l'image qu'il faut avoir, des globes dans lesquels le virus va concentrer tout ce dont il a besoin pour finir la reverse transcription, pour faire l'intégration, mais aussi et surtout pour se protéger contre les réponses antivirales de la cellule, puisque toutes les cellules ont des systèmes de contrôle qualité qui sont là pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal dans l'environnement. Et un génome viral, qu'il soit HIV ou n'importe quel autre virus, est vu comme absolument anormal. Et du moment où il est détecté, il y a des réponses antivirales qui se déclenchent, des interférents, des réponses inflammatoires. Donc, dans HIV, ce qui a été montré, c'est que ces globes, ces condensats, faisaient en sorte que HIV n'était pas vu par ce qu'on appelle l'immunité innée, qui est la première barrière immunitaire. Et si on empêche ces condensats de se former, il est vu et l'intégration n'a pas lieu.
Jean-Daniel Lelièvre, donc là, ce qu'on vient d'entendre, hein, on identifie ces étapes cruciales, enfin en tout cas il faut les comprendre pour justement réussir à fournir des inhibiteurs. Ça veut dire que ces organites, par exemple, ils peuvent être de futures cibles thérapeutiques pour de prochains traitements?
Ah bah ils sont, comme on vient de le rappeler, déjà des cibles pour des traitements. La difficulté que l'on a actuellement avec le lenacapavir, c'est que c'est un médicament remarquablement efficace, qui a été développé initialement pour traiter les gens, c'est-à-dire c'était pas la prophylaxie, mais qu'il a une durée d'action qui est très très longue, on reviendra là-dessus, et que si on veut le coupler à d'autres antirétroviraux, parce que quand on donne les médicaments en traitement, on peut pas donner ce qu'on appelle une monothérapie, et ben pour l'instant on n'a pas d'autres traitements à lui associer, et d'où ensuite son déplacement vers de la prophylaxie.
Anna Salvetti.
Oui, je voulais préciser qu'en fait, le lenacapavir est un inhibiteur de la capside et il a été développé, c'est à 10 ans de recherche au minimum, hein, par la société Gilead, avec toute une équipe de chimistes en particulier. Et donc, au départ, il a été développé avec l'idée qu'on allait empêcher la formation de nouvelles particules. Parce qu'une fois que le virus est rentré, qu'il s'est intégré, il va produire des nouvelles particules et donc il doit reproduire des capsides. Mais maintenant, vu ce qu'on sait sur le fait que cette protéine de capside, elle agit à plein de niveaux, ce n'est presque plus une protéine structurale, ça devient une protéine, ce qu'on appelle chez les virologistes, une protéine régulatrice. Eh bien, ça suggère quand même que cette molécule est capable de bloquer VIH à plein d'endroits. Et ça, c'est intéressant aussi par rapport aux résistances.
Parce que c'est ça, je me tourne à nouveau vers vous, Jean-Daniel Lelièvre. Les obstacles majeurs à la guérison, c'est ça, c'est la persistance des réservoirs viraux.
C'est l'obstacle majeur à la guérison. Alors, c'est un pan de la recherche au VIH qui est très important et sur lequel beaucoup de collègues se penchent depuis quelques temps. C'est que une fois que vous êtes infecté, le virus va rester dormant dans un grand nombre de cellules qu'on appelle les lymphocytes TCD4 et il est invisible par le système immunitaire. Il est invisible par les traitements parce qu'il est à un état quiescent, c'est-à-dire il est sous forme d'acide nucléique. Hein, c'est le virus qui est un ARN s'est transformé en ADN et se trouve dans le noyau de vos cellules et il est impossible de le déloger. On peut le déloger avec des traitements très très complexes. On y est arrivé chez un certain nombre de patients qui sont limités, hein, c'est moins d'une dizaine, mais c'est effectivement des pistes importantes pour l'avenir.
Fran Le Breton et puis ensuite on vous écoute, Anna Salvetti.
Oui, non, juste dire qu'effectivement, on a beaucoup d'espoir sur le LENAC. Bon, en PrEP, évidemment, c'est génial. C'est déjà commercialisé aux États-Unis, pas encore en Europe, parce qu'il va y avoir la question du prix aussi, parce que c'est un traitement qui coûte cher. Maintenant, c'est vrai que, comme disait Jean-Daniel Lelièvre, on n'a pas trouvé son partenaire en traitement VIH. Et on espère vraiment, il y a des essais cliniques actuels, avec des anticorps neutralisants, etc. Bon, on espère vraiment que ça va arriver, parce qu'un traitement tous les 6 mois, pour les personnes séropositives, c'est génial aussi, en fait. Parce que déjà tous les 2 mois c'est bien, moi je suis pas encore passé à tous les 2 mois parce que les piqûres dans les fesses ça fait mal, mais quand ce sera tous les 6 mois, là j'irai parce que vraiment c'est un vrai confort de vie de plus prendre un traitement au quotidien en fait.
Anna Salvetti.
Oui, juste une précision par rapport à la latence, la fameuse latence du virus dont on a parlé, qui est l'obstacle à la guérison, c'est-à-dire pouvoir se débarrasser du virus qui est intégré dans nos cellules. eh bien, l'espoir, c'est quand même qu'un jour, on arrive à le faire. Alors, il y a des stratégies qu'on a appelées shock and kill, c'est-à-dire réveiller le virus pour que le système immunitaire l'attaque. Mais il y a aussi le fait que, bon, c'est une latence, mais comme toujours, les états biologiques ne sont jamais stables. C'est toujours des alternances entre des petites expressions, de la latence. Le virus, il est pseudo-silencieux, de temps en temps, il se réveille. Et les cellules dans lesquelles il est ont une durée de vie limitée. Donc, on peut imaginer que peut-être avec un traitement opportun, qui marche bien, qui est efficace sur le long terme et qui bloque complètement, on arrive à épuiser ce réservoir.
Alors maintenant, qu'est-ce que la PrEP et quelle est la place d'un futur vaccin dans ce contexte ? Restez avec nous, on y arrive après cette musique. En direct sur France Culture, The Rebets, Sugar Baby Love, le morceau de prévention de Aide. Car nous parlons des avancées autour de la lutte contre le VIH, c'est notre club actu avec nos quatre invités du jour. Mathilde Fontaise, rédactrice en chef d'Epsilon, notre magazine partenaire. Anna Salvetti, rédactrice en chef de la revue Médecine Science, revue de l'INSERM. Jean-Daniel Lelièvre, professeur des universités, praticien hospitalier au CHU Henri Mondor à Créteil, directeur du département clinique du VRI, spécialiste de la vaccination et expert à la HAS et Fred Le Breton, journaliste pour le magazine Remède. Alors on vient de parler d'un certain nombre de choses, on peut faire le constat déjà, hein, Jean-Daniel Lelièvre, qu'on fait face à une palette d'outils de prévention contre le VIH qui peuvent être utilisés seuls ou combinés, ça c'est ce qu'on appelle la prévention diversifiée.
Alors il faut comprendre que pour des pathogènes complexes comme le VIH, mais également un autre pathogène, par exemple le paludisme, où on n'a pas de vaccin efficace, eh ben on va essayer de combiner plusieurs choses. On va combiner des moyens mécaniques de prévention. Pour le paludisme, on utilise des moustiquaires. Pour le VIH, on va utiliser des préservatifs. Et on va essayer de développer des vaccins. Et avant, on a également l'utilisation des médicaments. Et ces médicaments, Fred Le Breton nous en a parlé, ils vont permettre chez un individu qui est infecté de faire complètement, de contrôler la charge virale, de ne plus transmettre. Mais on peut l'utiliser aussi en vie de tous les jours pour se protéger. On va prendre ces médicaments et on va se protéger contre une possible infection. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie, la pré-exposure prophylaxie. La PrEP. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les traitements qu'on va prendre sont les mêmes que lorsqu'on traite l'infection. La seule différence, c'est le nombre de médicaments. Et pour ça, c'est assez simple de comprendre pourquoi on n'utilise qu'un seul ou éventuellement deux médicaments, mais pas une trithérapie qu'on fait de la prophylaxie. C'est parce que quand vous êtes susceptible de vous infecter, quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui peut vous transmettre le VIH, vous allez être infecté non pas avec des millions ou des milliers de virus, mais en général, vous êtes infecté avec un ou deux virus. Et donc, on n'a pas besoin d'une puissance d'action comme chez quelqu'un qui est infecté. Et donc, on va pouvoir développer comme ça. On a développé au cours du temps des médicaments pour protégés contre l'infection. Il y a eu évidemment des études qui ont été faites d'abord dans les modèles animaux et puis ensuite des études chez l'homme, avec tout d'abord un médicament qui s'appelait le Truvada, qui est une combinaison de deux médicaments classiques qu'on utilise dans le VIH. Et là, il y a eu de nombreuses études, et dans laquelle la France a été assez pionnière, qui ont montré l'efficacité de ces médicaments. La problématique du Truvada, c'est qu'il faut le prendre très régulièrement. Alors, soit on le prend en continu, soit on le prend juste avant et juste après avoir un rapport sexuel, mais ça pose quand même, c'est une difficulté de gestion, une gestion qui n'est pas forcément très simple. Et puis est arrivé le lenacapavir, qu'on a développé initialement comme traitement anti-VIH pour traiter les personnes vivant avec le VIH. Et puis très vite, on s'est dit, mais pourquoi on ne l'utiliserait pas en prophylaxie? Et on a fait de grandes études. Alors, le médicament est apparu comme le médicament de l'année en 2024, mais les études étaient antérieures. Et dans les grandes études, on a montré l'efficacité de ce médicament, parce que l'intérêt de ce médicament, qui se donne par voie sous-cutanée, c'est de ne se donner que tous les 6 mois. Et donc, on a une prophylaxie qui va perdurer 6 mois, et on a montré l'efficacité de ce médicament à la fois chez les gens chez qui on avait montré auparavant l'efficacité du Truvada, mais également d'autres populations, comme les femmes, par exemple. Non pas que le Truvada ne fonctionnait pas chez les femmes, mais peut-être pour des problèmes d'observance, on avait des difficultés, et le lenacapavir, donné une seule fois tous les 6 mois, permet une protection quasiment de 100% de l'infection par le VIH.
Mathilde Fontaise.
Oui, je voulais réagir au sujet des 2 injections par an, hein, une fois tous les 6 mois, et donc Fred témoignait tout à l'heure du soulagement que ça pouvait être quand on était porteur du VIH, mais c'est aussi évidemment vu comme un espoir pour disons améliorer les traitements dans les pays en voie de développement, dans les pays à faible revenu et dans les pays où il est beaucoup plus difficile de s'astreindre comme ça à une pilule, à accéder à ces pilules, à s'astreindre, à la prendre tous les jours, etc. Donc c'est aussi pour ça que ce lenacapavir marque un vrai moment, c'est que on va pouvoir mettre à disposition, en tout cas faciliter le traitement dans les pays dans ces pays du sud, notamment de l'Afrique, qui sont les pays dans lesquels il y a encore une véritable épidémie, on va dire beaucoup plus sévère que dans nos régions à nous.
Fred Le Breton.
Ben oui, et je voulais rajouter quelque chose au sujet de la PrEP. C'est un outil révolutionnaire. Il faut le dire et le redire, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, il n'y a pas de campagne nationale autour de la PrEP, il n'y a pas de spot à la télé. Ce sont des associations comme AIDE qui, depuis des années, fait la promotion sur nos fonds propres, hein, de cet outil. En fait, la PrEP, c'est aussi un outil qui peut être un outil de libération pour les femmes. Or, aujourd'hui, on a eu les données, là, il y a quelques jours, à l'occasion du 1er décembre, il n'y a que 4% de femmes qui prennent la PrEP en France. 4%.
Et vous
souhaitez. Donc il y a un vrai sujet là, en fait.
En effet, et Anna Salvetti, vous souhaitiez également réagir.
Oui, j'insiste sur le fait que le premier essai clinique qui a été fait avec le lenacapavir en Afrique, c'était sur des femmes. Parce que justement, la difficulté pour elles, pour plein de raisons logistiques et autres,
et culturelles.
Culturelles, et de stigmatisation, tout ce qu'on veut, de pouvoir prendre ce médicament tous les jours. Alors qu'avec la PrEP, c'était vraiment... Bon, l'effectif, le nombre de patients, je crois pas que c'était très important, mais quand même surprenant, parce qu'il y a eu 100% de protection, et c'était comparé aux d'autres thérapies qui existaient déjà. Et c'est stupéfiant. Et le deuxième essai, qui lui a été fait chez les femmes, mais aussi chez des hommes, et pas qu'en Afrique, avait aussi, je crois, 96% de protection, ce qui est énorme.
Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire tout de suite, Jean-Daniel Lelièvre. On parle de la PrEP, de son efficacité. Et c'est quelque chose, c'est un outil qu'il ne faut pas confondre avec le TPE, le traitement post-exposition.
Oui, le traitement post-exposition, c'est vous êtes... vous pensez avoir eu un rapport avec quelqu'un qui vivait avec le VIH et qui n'était pas sous traitement, et à ce moment-là, vous pouvez prendre un traitement juste après l'exposition pour être protégé. En général, vous le prenez pendant un mois, donc c'est un petit peu différent, mais on reste dans le même esprit. Les choses importantes aussi concernant la PrEP, c'est que on vient de le noter, mais en Afrique, il y a une vraie stigmatisation de l'infection. Elle est encore, et Fred Le Breton en parlait, elle est encore présente en France, mais elle est majeure dans certains pays africains. Et donc, c'est très compliqué pour quelqu'un d'aller chercher très régulièrement, et parce qu'on est visible, quelqu'un va vous voir en train de récupérer votre prophylaxie par Truvada, et c'est un changement majeur avec le lenacapavir. Vous allez deux fois, enfin, vous irez deux fois, parce qu'il n'est pas encore disponible, vous irez deux fois par an pour vous protéger. Il faut comprendre aussi que ce médicament a été élu médicament de l'année. C'était aussi une manière de faire une pression très, très forte auprès de Gilead pour que ce traitement soit accessible à tout le monde. Mmh. Hein, parce que le coût actuellement du traitement, pour faire simple, pour avoir une ordre d'idée, c'est à peu près 40 000 euros en France, dans les pays riches. Mmh. Il va y avoir un générique qui va être développé pour les pays africains, les pays à faible revenu, et ça va être 40 euros, un facteur 1000. Et ça va effectivement enfin révolutionner la prise en charge, la prévention de cette infection dans les pays qui sont les plus touchés.
Fred Le Breton.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Daniel Lelièvre. J'ajouterais que dans le VIH, on parle de population clé. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas concerné de la même façon. Il y a des populations qui sont plus exposées au VIH. On le sait, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les femmes en France d'origine africaine subsaharienne, les travailleuses et les travailleurs du sexe, etc. Et en fait, on sait que ces groupes de populations sont les plus éloignés du soin aujourd'hui, et y compris de la PrEP, parce que c'est compliqué d'aller à l'hôpital tous les 3 mois, de prendre un comprimé tous les jours. Donc vraiment, ce traitement tous les 6 mois, c'est vraiment une clé pour atteindre les populations les plus éloignées du soin et les plus exposées au VIH.
Alors tout ça, on voit bien que ce sont des changements majeurs, mais on ne peut pas ne se satisfaire que de ça. À quand le vaccin ? La question se pose depuis 1983.
Au début des années 80, des malades atteints de graves déficiences immunitaires sont adressés par leur médecin à l'Institut Pasteur. Après l'Afrique, l'Amérique, c'est maintenant l'Europe qui est touchée par ce mal inexplicable. À Pasteur, un groupe d'études se constitue rapidement en collaboration avec des équipes hospitalières. Examens, prélèvements, analyses, pendant plusieurs mois, les travaux se poursuivent ici, dans l'unité du professeur Montagnier. Et c'est dans ce laboratoire qu'au printemps 1983, l'étude d'une biopsie va lever le mystère qui entoure la nature du sida. Les chercheurs viennent en effet d'isoler l'agent responsable de la maladie. C'est une première mondiale. Dans les mois qui suivent, l'équipe va mettre au point un test qui permet de déceler la présence du rétrovirus dans le sang et d'écarter ainsi les risques de contamination par transfusion. Les auteurs de cette découverte sont 3 médecins, les docteurs Françoise Barré-Sinoussi, Jean-Claude Sherman et le professeur Luc Montagnier.
Réussi à, non pas guérir, mais maintenir en vie des gens qui seraient morts sans ce traitement, un traitement contre le virus. Donc c'est satisfaisant d'une part. Mais c'est aussi le verre à moitié vide, c'est-à-dire que on n'a pas réussi complètement à éradiquer l'épidémie, éradiquer même l'infection, n'est-ce pas ? On ne sait pas guérir quelqu'un qui est affecté par ce virus.
Voilà la voix de Luc Montagnier en 1983 dans une archivina. Voilà, après la découverte du virus en 83, 1984, la secrétaire d'État américaine à la santé déclare qu'un vaccin serait disponible dans les 2 ans, 35 ans plus tard, Jean-Daniel Lelièvre, aucun ne l'est encore.
Non, aucun ne l'est encore. Alors, il faut se remettre la situation historique qui était celle-là en 1985. Il faut dire qu'on venait de découvrir le vaccin contre l'hépatite B, et on pensait qu'il y a plein de choses qui allaient être assez simples à mettre en place. Le vaccin contre le VIH fait partie des vaccins pour lesquels, le VIH fait partie des pathogènes pour lesquels on n'a pas à l'heure actuelle de vaccin. C'est un virus très complexe qui mute tout le temps. Hein. On voit, les gens redécouvrent ça avec la Covid-19. Évidemment, ils le savaient aussi avec la grippe. On est obligé de changer en permanence les vaccins. Avec le VIH, le taux de mutation et la capacité du virus de changer est encore plus importante. Le virus attaquer en plus le système immunitaire. Donc, ça en fait un virus très particulier. Est-ce que pour autant, il faut arrêter de travailler sur un vaccin contre le VIH ? Non, très clairement, parce qu'on a besoin de prévention combinée. Fred Le Breton l'a rappelé, on a des populations clés, on a des populations cibles parmi lesquelles on sait que l'incidence de la maladie va être plus fréquente. Et donc là, c'est assez simple d'aller donner de la PrEP, mais donner de la PrEP en population générale à tout le monde, ça va être quelque chose qui peut être très compliqué. Très compliqué parce que les gens ne se sentent pas à risque. On voit bien que dans les pays européens, hors communauté européenne, on va avoir une incidence beaucoup plus importante chez les hétérosexuels, par exemple, et qui ne se considèrent pas du tout à risque. Donc, pouvoir cibler l'ensemble de la population avec la PrEP est un outil majeur et un outil révolutionnaire, et c'est un outil qui va nous aider à contrôler. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre de complètement éradiquer? Probablement pas. Donc, il faut continuer à faire de la recherche sur le vaccin, et même avec des vaccins imparfaits, on voit qu'on va combiner tout ça, et même si on a un vaccin qui marche pas à 100%, on pourrait, avec un vaccin, au final, contrôler de manière définitive cette maladie.
Mais quels sont justement, Jean-Daniel Lelièvre, les candidats vaccins qui retiennent votre attention, enfin du moins l'attention des scientifiques?
Alors, il y a pas mal de candidats vaccins. Il y avait eu un grand essai qui s'appelait l'essai RV144 taille au début des années 2010, il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années, qui montrait pour la première fois qu'on était capable de prévenir l'infection en induisant un type de réponse immunitaire qu'on appelle des anticorps, et des anticorps un petit peu particuliers, en ce sens que c'était des anticorps qu'on appelle non neutralisantes, c'est-à-dire qui vont agir de manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire avec des vaccins. Les études qui sont allées après celle-ci, les grands essais qui sont allés après cet essai RV144, n'ont pas permis de reproduire ces études, ces résultats, mais on n'est jamais arrivé à avoir le même taux d'anticorps. Donc, on ne sait pas si c'est la piste en elle-même qui fonctionne pas, ou c'est qu'on n'est pas capable véritablement de reproduire de manière exacte ce premier résultat positif. Et puis, il y a un pan de la recherche qui va induire vraiment des anticorps qui sont dits neutralisants et qui vont permettre de neutraliser l'ensemble des souches virales. Il y a des résultats assez intéressants, pertinents dans les modèles animaux, des premières études chez l'homme, mais avec des stratégies vaccinales relativement complexes, qui fait que c'est très difficile à l'heure actuelle, en 2025, de dire à quel horizon de temps on pourrait avoir des vaccins de ce type-là.
En tout cas, on continuera évidemment de garder un œil sur ces recherches toujours en cours. Dans Epsilon, Mathilde Fontaise, vous écrivez: alors que la victoire contre le virus semble à portée de la science, les experts s'inquiètent. Pour quelles raisons? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous prenons des nouvelles de la recherche contre le VIH. On vient de voir que l'arsenal anti-VIH s'était musclé, PrEP, traitement antirétroviral, des embryons de vaccins, une meilleure compréhension du virus, de nouvelles pistes qui arrivent avec des anticorps très puissants à large spectre qui permettraient de prendre le TARV moins souvent. Alors donc aujourd'hui, c'est cette journée mondiale de lutte contre le sida. Le slogan de cette édition 2025, c'est « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida ». Il faut dire que c'est une année assez particulière, cette édition 2025, Mathilde Fontaise.
Oui, c'est une année particulière. Alors, et en fait, là, j'ai un recul de 3 ans en particulier aussi, puisque l'article sur lequel je m'appuie pour préparer l'émission et que j'ai réactualisé, c'est un article qu'on avait fait dans Epsilon en 2022. Et pourquoi on avait fait cet article en 2022? Parce qu'on avait identifié, d'une part, effectivement, c'était pas encore le nouveau médicament, mais il y avait un dynamisme de recherche dans, notamment, la compréhension des mécanismes fins du virus qui était en train d'émerger. Et d'autre part, il y avait un vrai moment un peu inquiétant du côté de la, on va dire, de la politique de la santé publique, de la distribution des médicaments, etc., et du traitement, de la prévention, qui était lié au Covid à l'époque. On était en sortie de Covid, on avait mobilisé beaucoup de nos efforts de santé publique, quand je dis nous, c'est à l'échelle mondiale, tous les organismes de santé, toutes les associations et les États, et l'argent des États avait été mobilisé pour lutter contre le Covid, et on avait vu à plusieurs manifestations, congrès scientifiques, etc., émerger des craintes de voir de voir la lutte contre la maladie, contre le sida, commencer à reculer alors même qu'on était en train d'admirer des exploits scientifiques. Et donc c'était cette espèce de paradoxe qu'on avait cherché à capturer dans l'article d'Epsilon à l'époque. On parlait de moments charnières, de moments critiques, beaucoup de gens s'inquiétaient, etc. Faut rappeler que pour la première fois à cette époque-là, en 2022, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, hein, puisque les trois maladies sont dans le même, avait enregistré un recul de dépistage, et pas un petit recul, un recul de dépistage de 22%, et un recul de 11% de l'accès aux services de prévention. Donc on avait, comme ça, pour la première fois, une vraie inquiétude. Et donc là, quand on regarde 3 ans après, on pourrait se dire, on s'est éloigné du Covid, et donc les choses ont dû s'améliorer. Pas du tout, puisque, en l'occurrence, entre-temps, on a eu l'arrivée donc assez récente de l'administration Trump au pouvoir, et donc, tout à coup, en fait, quelque part, une prise de relais dans l'inquiétude, disons, une baisse de financement qui était plutôt liée au fléchage du Covid, au fléchage des financements vers le Covid. Et là, l'arrivée de Trump qui a très rapidement, hein, on le sait, par décret, et après, ça a été confirmé par le Congrès en partie, on va dire fermer les robinets de 2 aides majeures. Donc il faut savoir que les États-Unis sont un financeur massif de la lutte contre le sida. Ils ne sont pas les seuls. Énormément de pays participent, bien évidemment, mais c'est un financement massif. Et donc les deux mesures et les deux, on va dire, aides, si on peut parler comme ça, qui ont été attaquées, c'est d'abord le PEFPAR. Donc c'est un dispositif qui est spécifique à la lutte contre le sida et qui avait été lancé en 2003 par George Bush. Et d'autre part, l'USAID, qui là est une enveloppe d'aide au développement, et qui donc va à la fois apporter, donc je crois que c'est 2 milliards, c'était 2 milliards pour le sida, et puis après c'est une enveloppe de plusieurs dizaines de milliards, et qui sert aussi à tout le développement, disons, des pays qui peuvent être pauvres ou en danger. Le PEFPAR a été en partie sauvé par le Congrès, une partie des financements du PEFPAR ont été sauvés par le Congrès donc cet été, mais l'USAID pas du tout, les bureaux sont fermés et c'est terminé. Donc on commence à voir là depuis cet été des témoignages d'associations qui se multiplient et qui disent la grande difficulté, on va dire concrète, de voir des médicaments ne pas arriver, ou alors des médicaments arriver dans des hangars mais auxquels on n'arrive pas à avoir accès, y compris à Bruxelles. Hein, il y a eu récemment à Bruxelles une controverse avec des médicaments qui avaient été financés mais qui ne devaient pas arriver à bon terme puisque les financements avaient été annulés. Et qu'est-ce qu'on fait de ces médicaments? Débat juridique, manifestation, etc. Donc ça, c'est à Bruxelles. Mais après, en Afrique du Sud, c'est pareil. Au Cameroun, c'est pareil. Et donc, on voit toutes ces inquiétudes émerger. Et puis, on voit aussi, on a certaines études financières qui commencent à sortir et qui sont très inquiétantes. Une menée par le Lancet et qui présage que l'arrêt des aides américaines pour ce qui est de la lutte contre le sida pourrait augmenter les infections de 15%, la mortalité de 10% et provoquer des millions de morts supplémentaires.
Donc, plus de 14 millions de morts supplémentaires d'ici à 2030, en effet, selon cette étude.
C'est ce qui prévoit, ouais. Voilà, plus de 14. Et donc, c'est vrai qu'on a ce portrait, et on en a longuement parlé, et je pense qu'on a raison sur ce plateau d'une compréhension qui avance sur la maladie, sur le virus, d'une technique de soins, d'un arsenal de soins, on peut même parler de ça, quoi, qui est extrêmement puissant. Mais à la fois, on assiste un petit peu pantois aussi à... En 2022, l'un des interlocuteurs qu'on avait interrogé, qui était Fodé Simaga, qui était le directeur de la stratégie de lutte de l'UNICIDA, nous disait, il nous reste 10 millions à trouver. On rentre dans le dur de l'épidémie. Il reste 10 millions de personnes qui sont atteintes du VIH dans le monde et qui ne savent pas qu'ils le sont ou qui ne sont pas traités, etc. Et ce sont ces 10 millions-là qu'il faut aller chercher pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont ceux qui sont portés par l'UNICIDA d'une fin de l'épidémie en 2030. Et on voit bien que cette fin d'épidémie en 2030, elle n'est pas en train de s'approcher. En fait, on s'en éloigne depuis 2022 de manière un peu progressive, malgré les progrès.
Jean-Daniel Lelièvre, vous souhaitiez réagir et puis je vous donne la parole après, Anna Salvetti.
Oui, ce qui est en train de se passer est quelque chose d'absolument catastrophique. Et on le voit bien. Et je pense qu'il est catastrophique à deux niveaux. Premièrement, pour les personnes vivant avec le VIH et demain celles qui pourraient s'infecter. Et on vient de voir des chiffres. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut garder en tête que le VIH est l'exemple à suivre. C'est la maladie pour laquelle on est allé le plus rapidement. On a pu développer des médicaments très rapidement. On n'a pas de vaccin, mais toute la recherche qui a été faite sur le vaccin VIH a permis de développer très rapidement des vaccins contre la COVID-19 et contre d'autres pathogènes. On a mis en place, et Fred Le Breton est là, des patients experts. Il y a eu une implication très forte des gens qui vivaient avec le VIH dans la lutte contre cette maladie, et on a montré que nous, pays du Nord, on était capable d'aider les pays du Sud. Et donc tout cet exemple de ce qu'on devrait suivre demain, de la manière dont doivent être gérées les maladies infectieuses demain, eh ben on est en train de le détruire. Donc il faut continuer à se battre. On sait que ça va être compliqué. On voit tout ce qu'a fait l'administration Trump, mais il faut absolument se battre pour un modèle qui est unique et un modèle qui ne peut que bénéficier à l'ensemble de la population pour d'autres maladies très claires.
Anna Salvetti.
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose malheureusement encore plus négatif. Ça, tout ce qu'a énoncé Mathilde, c'est que en plus de tout cela, il y a les fonds qui ont été coupés aux laboratoires aux États-Unis, au NIH, et il ne faut pas croire que ça touche que les laboratoires du NIH. Ça nous touche aussi, nous, indirectement, par les collaborations, les échanges qu'on pouvait avoir. Et deuxième chose aussi qui risque de faire des ravages énormes, c'est la décrédibilisation de la science, du langage des scientifiques, qu'ils soient médecins, chercheurs. Vraiment, la volonté de transformer ce que peuvent dire les scientifiques en une opinion quelconque. Ce qui fait que les jeunes peuvent ne pas du tout écouter quand on parle de prévention, quand on parle de préservatif ou autre chose. Voilà, ça s'ajoute à tout le reste et c'est l'ensemble qui est dramatique.
Et une prévention d'autant plus importante sur ces publics plus jeunes, puisqu'on a fait une émission il y a ça deux semaines en partenariat avec l'INSERM, où justement on voyait que les discours de prévention sur le VIH étaient difficilement atteignables sur ces publics-là. Et je vous voyais, vous aussi Fred Le Breton, qui souhaitait intervenir à nouveau.
Oui, alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et on parle beaucoup des coupes américaines et de Trump à juste titre. On oublie qu'il y a 10 jours, il y a eu la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, à laquelle notre président, M. Macron, ne s'est même pas déplacé. Donc on est le deuxième contributeur historique de ce fonds, et on n'a pas fait de promesse de don. C'est la première fois que ça arrive. C'est grave, en fait, ce qui est en train de se passer actuellement, et il faut le dire, en fait.
L'objectif, pour conclure très rapidement, l'objectif national zéro contamination d'ici 2030, c'est irréaliste ?
Bah, totalement.
Mais écoutez, on arrive à la fin de ce Club Actu et je suis désolée de terminer sur cette note grave mais alarmante et nécessaire. Un grand merci à vous quatre. Tout de suite, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Les mots peuvent faire frissonner le cerveau. C'est la chronique avec science.
Les mots peuvent-ils éveiller des sensations dans le cerveau ? Cela fait partie d'une nouvelle conception de la cognition. Pendant longtemps, on a pensé le corps comme étant assez séparé de l'esprit. Mais depuis les années 2000, une nouvelle théorie commence à s'imposer, celle de la cognition incarnée. C'est l'idée selon laquelle il y aurait une sorte d'inscription corporelle de l'esprit. C'est au départ une approche assez conceptuelle, mais elle commence à se vérifier concrètement dans le cerveau. Par exemple, on sait qu'imaginer donner un coup de pied ou attraper et un objet active dans le cerveau les aires motrices, sans même bouger d'un millimètre. Et ce principe fonctionne aussi avec la lecture. Certains mots sollicitent des zones cérébrales liées à l'action qu'elles décrivent. Marcella Peroné Bertolotti est maîtresse de conférences à l'université Grenoble-Alpes et chercheuse au laboratoire de psychologie et neurocognition.
D'un point de vue neuronal, la cognition incarnée, il impliquerait des réseaux beaucoup plus distribués parce qu'en l'occurrence, c'est modal. Donc, par exemple, le fait de lire un mot, il ne viendrait pas uniquement impliquer des réseaux cérébraux de la lecture, mais aussi des réseaux cérébraux qui sont en lien avec les différentes modalités impliquées. En l'occurrence, par exemple, un verbe d'action de la main, il viendrait aussi impliquer toute la partie de l'action et des régions cérébrales en lien avec la mobilité effective. D'un point de vue des mécanismes, un des mécanismes, c'est celui de la simulation mentale, de la simulation par exemple motrice lorsqu'on parle d'une action. Il y aurait une sorte de simulation interne de cette action. Ou quand je me remémore quelque chose, quand j'imagine en train ce soir d'aller à la piscine et de nager, je m'imagine, j'aurais une sorte de simulation de cette action de nager qui serait automatiquement mise en place.
Mais est-ce que cela fonctionne aussi avec les sensations? Est-ce que lire « j'ai chaud » ou « j'ai froid » déclenche les mêmes zones que lorsqu'on ressent vraiment de la chaleur ou du froid? C'est exactement ce qu'a voulu tester cette nouvelle étude parue dans iScience. Et la région cérébrale qui est impliquée dans la perception des sensations, c'est l'insula qui joue aussi un rôle dans la douleur. Elle est enfouie très profondément dans le cerveau et donc, pour des raisons éthiques évidentes, il serait impossible de mener une étude simplement pour répondre aux questions que l'on vient d'évoquer. Les scientifiques ont donc en réalité travailler avec des volontaires un petit peu particuliers, des patients souffrant d'épilepsie sévère et qui, pour être soignés, ont été implantés d'électrodes. Au CHU de Grenoble, les chercheurs et chercheuses ont donc profité de cette fenêtre clinique pour mener une expérience. Tout en suivant l'activité électrique de l'insula, grâce à cet EEG intracrânien, ils ont demandé aux patients de lire trois types de verbes. D'abord, des verbes abstraits, comme « je rêve »,« j'estime », »,« je réfléchis ». Ensuite, des verbes d'action, « je saute », je verse quelque chose, j'écris, et enfin des verbes associés à des sensations désagréables. Je grelotte, je me cogne, je brûle ou je me coupe. Et résultat, lire des mots liés à des sensations suffit à activer l'insula postérieure, la zone précisément impliquée dans leur perception réelle. Autrement dit, le cerveau réagit comme si le corps vivait vraiment la sensation.
Dans l'insula postérieure, et seulement dans cette région-là, qui est une région qu'on sait qui est impliquée dans le réseau de la douleur, de la sensation, etc., on observe une réponse très rapide et de façon assez distante, c'est-à-dire presque sélective, qu'est pour ce type de mots, c'est-à-dire une sorte de correspondance. C'est cette région, elle répond à la douleur, mais elle répond aussi aux mots qui font référence à la douleur et ne répond pas pour toutes les autres. Ce qui est important ici aussi, c'est que pour les autres régions, cette différence n'est pas observée, ce qui montre bien qu'il y a cette relation entre la douleur effective et le ressenti de la douleur à travers la lecture de mots. Ce qui a été aussi très surprenant pour nous, c'est qu'on a pu avoir des réponses aussi subjectives, c'est-à-dire que chaque patient donnait un avis sur chaque mot, de combien pour lui c'était un mot qui induisait la douleur ou la sensation. Et en fait, on a une corrélation entre l'activité de cette région et les réponses subjectives.
L'effet est donc subjectif pour chacun des 16 participants. L'insula réagit en fonction de ce que chaque personne associe à ses mots. Cela confirme à quel point notre expérience personnelle et nos souvenirs nourrissent cette cognition incarnée. Cette preuve d'une stimulation interne déclenchée simplement par la lecture est d'abord un apport théorique important, mais elle ouvre aussi des applications concrètes. Et c'est la suite de cette étude. Dans la réhabilitation, par exemple, réactiver certaines sensations grâce à la lecture après un AVC ou un traumatisme crânien, remobiliser des muscles avant même de pouvoir les bouger, aider les patients souffrant de douleurs chroniques à mieux moduler leurs ressentis ou encore, et cette fois c'est l'inverse, l'imagerie motrice pourrait elle aussi renforcer les capacités de lecture. Ces allers-retours entre corps et esprit par le biais du langage pourraient donc devenir à l'avenir des outils thérapeutiques.
Merci Alexandra pour votre chronique qui est comme chaque jour à podcaster sur le site franceculture.fr et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.